Chapitre 5. Ard Quanon. Toutes sortes d'intumescences déformaient la bruine et se gonflaient à la fois sur tous les points de l'horizon, comme si des bouches, qu'on ne voyait pas, étaient occupées à enfler les outres de la tempête. Le modelé des nuages devenait inquiétant. La nuée bleue tenait tout le fond du ciel. Il y en avait maintenant autant à l'ouest qu'à l'est. Elle avançait contre la brise. Ces contradictions font partie du vent. La mer, qui, le moment d'auparavant, avait des écailles, avait maintenant une peau. Tel est ce dragon. Ce n'était plus le crocodile, c'était le boa. Cette peau, plombée et sale, semblait épaisse et se ridait lourdement. À la surface, des bouillons de houle, isolés, pareils à des pustules, s'arrondissaient puis crevaient. L'écume ressemblait à une lèpre. C'est à cet instant-là que l'ourque, encore aperçu de loin par l'enfant abandonné, alluma son fanal. Un quart d'heure s'écoula. Le patron chercha des yeux le docteur. Il n'était plus sur le pont. Sitôt que le patron l'avait quitté, le docteur avait courbé sous le capot de chambre sa stature peu commode et était entré dans la cabine. Là, il s'était assis près du fourneau sur un chouquet. Il avait tiré de sa poche un encrier de chagrin et un portefeuille de cordouan. Il avait extrait du portefeuille un parchemin plié en quatre, vieux, taché et jaune. Il avait déplié cette feuille, pris une plume dans l'étui de son encrier, posa plat le portefeuille sur son genou et le parchemin sur le portefeuille, et sur le verso de ce parchemin, au rayonnement de la lanterne qui éclairait le cuisinier, il s'était mis à écrire. Les secousses du flot le gênaient. Le docteur écrivit longuement. Tout en écrivant, le docteur remarqua la gourde d'aguardiente que le Provençal dégustait chaque fois qu'il ajoutait un piment au puchero, comme s'il la consultait sur l'assaisonnement. Le docteur remarqua cette gourde, non parce que c'était une bouteille d'eau-de-vie, mais à cause d'un nom qui était tressé dans l'osier, en jonc rouge au milieu du jonc blanc. Il faisait assez clair dans la cabine pour qu'on pût lire ce nom. Le docteur, s'interrompant, l'épela à demi-voix. « Ard Quanon. » Puis il s'adressa au cuisinier. « Je n'avais pas encore fait attention à cette gourde. » Est-ce qu'elle a appartenu à Ard Quanon ? À notre pauvre camarade Ard Quanon, fit le cuisinier. Oui. Le docteur poursuivit. À Ard Quanon, le flamand de Flandre ?
Oui.
Qui est en prison ?
Oui.
Dans le donjon de Chatham ?
C'est sa gourde, répondit le cuisinier. Et c'était mon ami. Je la garde en souvenir de lui.
Quand le reverrons-nous ?
Oui, c'est sa gourde de hanche.
Le docteur reprit sa plume et se remit à tracer péniblement des lignes un peu tortueuses sur le parchemin. Il avait évidemment le souci que cela fût très lisible. Malgré le tremblement du bâtiment et le tremblement de l'âge, il vint à bout de ce qu'il voulait écrire. Il était temps, car subitement, il y eut un coup de mer. Une arrivée impétueuse de flots assaillit l'ourque, et l'on sentit poindre cette danse effrayante par laquelle les navires accueillent la tempête. Le docteur se leva, s'approcha du fourneau, tout en opposant de savantes flexions de genoux aux brusqueries de la houle. Sécha, comme il put, au feu de la marmite, les lignes qu'il venait d'écrire. Replia le parchemin dans le portefeuille et remit le portefeuille et l'écritoire dans sa poche. Le fourneau n'était pas la pièce la moins ingénieuse de l'aménagement intérieur de l'ourk. Il était dans un bon isolement. Pourtant, la marmite oscillait. Le provençal la surveillait. « Soupe aux poissons, » dit-il. « Pour les poissons, » répondit le docteur. Puis il retourna sur le pont. Chapitre 6. Il se croit aidé. À travers sa préoccupation croissante, le docteur passa une sorte de revue de la situation, et quelqu'un qui eût été près de lui eût pu entendre ceci sortir de ses lèvres. « Trop de roulis et pas assez de tangage !» Et le docteur, rappelé par le travail obscur de son esprit, redescendit dans sa pensée comme un mineur dans son puits. Cette méditation n'excluait nullement l'observation de la mer. La mer observée est une rêverie. Le sombre supplice des eaux, éternellement tourmenté, allait commencer. Une lamentation sortait de toute cette onde. Des apprêts, confusément lugubres, se faisaient dans l'immensité. Le docteur considérait ce qu'il avait sous les yeux et ne perdait aucun détail. Du reste, il n'y avait dans son regard aucune contemplation. On ne contemple pas l'enfer. Une vaste commotion, encore à demi latente, mais transparente déjà dans le trouble des étendues, accentuait et aggravait de plus en plus le vent, les vapeurs, les houles. Rien n'est logique et rien ne semble absurde comme l'océan. Cette dispersion de soi-même est inhérente à sa souveraineté et est un des éléments de son ampleur. Le flot est sans cesse pour ou contre. Il ne se noue que pour se dénouer. Un de ses versants attaque, un autre délivre. Pas de vision comme les vagues. Comment peindre ces creux et ces reliefs alternants, réelles peines, ces vallées, ces hamacs, ces évanouissements de poitrail, ces ébauches? Comment expliquer ces alliés de l'écume, mélangés de montagnes et de songes? L'indescriptible est là, partout, dans la déchirure, dans le froncement, dans l'inquiétude, dans le démenti personnel, dans le clair-obscur, dans les pendentifs de la nuée, dans les clés de voûte toujours défaites, dans la désagrégation sans lacune et sans rupture, et dans le fracas funèbre que fait toute cette démence. La brise venait de se déclarer plein nord. Elle était tellement favorable dans sa violence et si utile à l'éloignement de l'Angleterre que le patron de la Matutina s'était décidé à couvrir la barque de toile. L'ourk s'évadait dans l'écume, comme au galop, toute voile or, vent arrière, bondissant de vague en vague, avec rage et gaieté. Les fugitifs ravis riaient. Ils battaient des mains, applaudissaient la houle, le flot, les souffles, les voiles, la vitesse, la fuite, l'avenir ignoré. Le docteur semblait ne pas les voir et songeait. Tout vestige de jour s'était éclipsé. Cette minute-là était celle où l'enfant, attentif sur les falaises lointaines, perdit l'ourque de vue. Jusqu'à ce moment, son regard était resté fixé et comme appuyé sur le navire. Quelle part ce regard eut-il dans la destinée? Dans cet instant où la distance est face à l'ourk et où l'enfant ne vit plus rien, l'enfant s'en alla au nord pendant que le navire s'en allait au sud, tous s'enfonçant dans la nuit. Chapitre 7. Horreur sacrée. De leur côté, mais avec épanouissement et allégresse, ceux que l'ourque emportait regardaient derrière eux reculer et décroître la terre hostile. Peu à peu, la rondeur obscure de l'océan montait à mincissant dans le crépuscule Portland. Purkbet, Tyneham, Kimmeridge, les deux mâts travers. les longues bandes de la falaise brumeuse et la côte ponctuée de phares. L'Angleterre s'effaça. Les fuyards n'eurent plus autour d'eux que la mer. Tout à coup, la nuit fut terrible. Il n'y eut plus d'étendue ni d'espace. Le ciel s'était fait noirceur et il se referma sur le navire. La lente descente de la neige commença. Quelques flocons apparurent. On eût dit des âmes. Rien ne fut plus visible dans le champ de course du vent. On se sentit livré. Tout le possible était là, piégé. C'est par cette obscurité de caverne que débute dans nos climats la trombe polaire. Un grand nuage trouble, pareil au-dessous d'une hydre, pesait sur l'océan. Et par endroits, ce ventre livide adhérait aux vagues. Quelques-unes de ces adhérences ressemblaient à des poches crevées, pompant la mer, se vidant de vapeur et s'emplissant d'eau. Ces succions soulevaient çà et là sur le flot des cônes d'écume. La tourmente boréale se précipita sur l'ourque. L'ourque se rua dedans. La rafale et le navire vinrent au-devant l'un de l'autre comme pour une insulte. Dans ce premier abordage forcené, pas une voile ne fut carguée. Pas un foc ne fut amené. Pas un ris ne fut pris, tant l'évasion est un délire. Le mât craquait et se ployait en arrière comme effrayé. Les cyclones, dans notre hémisphère nord, tournent de gauche à droite, dans le même sens que les aiguilles d'une montre, avec un mouvement de translation qui atteint quelquefois 60 miles par heure. Quoiqu'elle fût en plein à la merci de cette violente poussée giratoire, l'ourque se comportait comme si elle eût été dans le demi-cercle maniable, sans autre précaution que de se tenir debout à la lame et de présenter le cap au vent antérieur, en recevant le vent actuel à tribord, afin d'éviter les coups d'arrière et de travers. Cette demi-prudence n'eût servi de rien en cas d'une saute de vent de bout en bout. Une profonde rumeur soufflait dans la région inaccessible. Le rugissement de l'abîme, rien n'est comparable à cela. C'est l'immense voix bestiale du monde. Ce que nous appelons la matière, cet organisme insondable, cet amalgame d'énergies incommensurables, où parfois on distingue une quantité imperceptible d'intention qui fait frissonner, ce cosmos aveugle et nocturne, ce pan incompréhensible, a un cri. Cri étrange, prolongé, obstiné. Continue, qui est moins que la parole et plus que le tonnerre. Ce cri, c'est l'ouragan. Les autres voix, chants, mélodies, clameurs, verbes, sortent des nids, des couvées, des accouplements, des hyménées, des demeures. Celle-ci trombe, sort de ce rien qui est. Les autres voix expriment l'âme de l'univers. Celle-ci en exprime le monstre. C'est l'informe hurlant. C'est l'inarticulé parlé par l'indéfini. Chose pathétique et terrifiante. Ces rumeurs dialoguent au-dessus et au-delà de l'homme. Elles s'élèvent, s'abaissent, ondulent, déterminent des flots de bruit, font toutes sortes de surprises farouches à l'esprit, tantôt éclatent tout près de notre oreille avec une importunité de fanfare, tantôt on l'enroument rauque du lointain. Brouhaha vertigineux qui ressemble à un langage, et qui est un langage en effet. C'est l'effort que fait le monde pour parler, c'est le bégaiement du prodige. Dans ce vagissement, se manifeste confusément tout ce qu'endure, subit, souffre, accepte et rejette l'énorme palpitation ténébreuse. Le plus souvent, cela déraisonne, cela semble un accès de maladie chronique. Et c'est plutôt de l'épilepsie répandue que de la force employée. On croit assister à une chute du haut mal dans l'infini. Par moments, on entrevoit une revendication de l'élément. On ne sait quelle velléité de reprise du chaos sur la création. Par moments, c'est une plainte. L'espace se lamente et se justifie. C'est quelque chose comme la cause du monde plaidée. On croit deviner que l'univers est un procès. On écoute, on tâche de saisir les raisons données, le pour et contre redoutable. Tel gémissement de l'ombre à la ténacité d'un syllogisme. Vaste trouble pour la pensée. La raison d'être des mythologies et des polythéismes est là. À l'effroi de ces grands murmures s'ajoutent des profils surhumains, sitôt évanouis qu'aperçus, des euménides à peu près distinctes, des gorges de furie dessinées dans les nuages, des chimères plutoniennes presque affirmées. Aucune horreur n'égale ces sanglots, ces rires, ces souplesses du fracas, ces demandes et ces réponses indéchiffrables, ces appels à des auxiliaires inconnus. L'homme ne sait que devenir en présence de cette incantation épouvantable. Il plie sous l'énigme de ces intonations draconiennes. Quel sous-entendu y a-t-il? Que signifie-t-elle? Qui menace-t-elle? Qui supplie-t-elle? Il y a là comme un déchaînement. Vocifération de précipice, précipice, de l'air à l'eau, du vent au flot, de la pluie au rocher, du zénith au nadir, des astres aux écumes, la muselière du gouffre défaite. Tel est ce tumulte, compliqué d'on ne sait quel démêlé mystérieux avec les mauvaises consciences. La loquacité de la nuit n'est pas moins lugubre que son silence. On y sent la colère de l'ignorer. La nuit est une présence. Présence de qui? Du reste, entre la nuit et les ténèbres, il faut distinguer. Dans la nuit, il y a l'absolu. Il y a le multiple dans les ténèbres. La grammaire, cette logique, n'admet pas de singulier pour les ténèbres. La nuit est une, les ténèbres sont plusieurs. Cette brume du mystère nocturne, c'est l'épars, le fugace, le croulant, le funeste. On ne sent plus la terre, on sent l'autre réalité. Dans l'ombre infinie et indéfinie, il y a quelque chose ou quelqu'un de vivant. Mais ce qui est vivant, là, fait partie de notre mort. Après notre passage terrestre, quand cette ombre sera pour nous de la lumière, la vie qui est au-delà de notre vie nous saisira. En attendant, il semble qu'elle nous tâte. L'obscurité est une pression. La nuit est une sorte de mainmise sur notre âme. À de certaines heures hideuses et solennelles, nous sentons ce qui est derrière le mur du tombeau empiété sur nous. Jamais cette proximité de l'inconnu n'est plus palpable que dans les tempêtes de mer. L'horrible s'y accroît du fantasque. L'interrupteur possible des actions humaines, l'antique assemble nuage, a là à sa disposition, pour pétrir l'événement comme bon lui semble, l'élément inconsistant, l'incohérence illimitée, la force diffuse sans parti pris. Ce mystère, la tempête, accepte et exécute à chaque instant. On ne sait quel changement de volonté, apparent ou réel. Les poètes ont de tout temps appelé cela le caprice des flots. Mais le caprice n'existe pas. Les choses déconcertantes que nous nommons dans la nature caprice et dans la destinée hasard sont des tronçons de lois entrevue. Chapitre 8. Nyx et Nox. Ce qui caractérise la tempête de neige, c'est qu'elle est noire. L'aspect habituel de la nature dans l'orage, terre ou mer obscure, ciel blême, est renversé. Le ciel est noir, l'océan est blanc. En bas, écume, en haut, ténèbres. Un horizon muré de fumée, un zénith plafonné de crêpes. La tempête ressemble à l'intérieur d'une cathédrale tendue de deuil. Mais aucun luminaire dans cette cathédrale. Pas de feu Saint-Elme aux pointes des vagues. Pas de flamèche, pas de phosphore. Rien qu'une immense ombre. Le cyclone polaire diffère du cyclone tropical en ceci que l'un allume toutes les lumières et que l'autre les éteint toutes. Le monde devient subitement une voûte de cave. De cette nuit tombe une poussière de taches pâles qui hésite entre ce ciel et cette mer. Ces taches, qui sont les flocons de neige, glissent, errent et flottent. Et c'est quelque chose comme les larmes d'un suaire qui se mettrait à vivre et entrerait en mouvement. À cet ensemencement se mêle une bise forcenée, une noisseur émiettée en blancheur, le furieux dans l'obscur, tout le tumulte dont est capable le sépulcre, un ouragan sous un catafalque, telle est la tempête de neige. Dessous tremble l'océan, recouvrant de formidables approfondissements inconnus. Dans le vent polaire, qui est électrique, les flocons se font tout de suite grêlons et l'air s'emplit de projectiles. L'eau pétille, mitraillée. Pas de coup de tonnerre. L'éclair des tourmentes boréales est silencieux. Ce qu'on dit quelquefois du chat, il jure. On peut le dire de cet éclair-là. C'est une menace de gueule entr'ouverte, étrangement inexorable. La tempête de neige, c'est la tempête aveugle et muette. Quand elle a passé, souvent les navires aussi sont aveugles et les matelots muets. Sortir d'un tel gouffre est malaisé. On se tromperait pourtant de croire le naufrage absolument inévitable. Les pêcheurs danois de Disco et du Balzin, les chercheurs de baleines noires, Erne, allant vers le détroit de Bering, reconnaître l'embouchure de la rivière de la mine de cuivre, Hudson, Mackenzie, Vancouver, Ross, Dumont-d'Urville, ont subi, au pôle même, les plus inclémentes bourrasques de neige, et s'en sont échappés. C'est dans cette espèce de tempête-là que l'Ourcq était entré, pleine voile et avec triomphe. Frénésie contre frénésie. Quand Montgomery, s'évadant de Rouen, précipita à toute rame sa galère sur la chaîne barrant la Seine à la bouille, il eut la même effronterie. La matutine courait. Son penchement sous voile faisait par instant avec la mer un affreux angle de 15 degrés. Mais sa bonne quille ventrue adhérait au flot comme à de la glu. La quille résistait à l'arrachement de l'ouragan. La cage à feu éclairait l'avant. Le nuage, plein de souffle, traînant sa tumeur sur l'océan, rétrécissait et rongeait de plus en plus la mer autour de l'Ourcq. Pas une mouette, pas une hirondelle de falaise, rien que la neige. Le champ des vagues était petit et épouvantable. On n'en voyait que 3 ou 4, démesurés. De temps en temps, un vaste éclair, couleur de cuivre rouge, apparaissait derrière les superpositions obscures de l'horizon et du zénith. Cet élargissement vermeil montrait l'horreur des nuées. Le brusque embrasement des profondeurs sur lequel, pendant une seconde, se détachaient les premiers plans des nuages et les fuites lointaines du chaos céleste, mettait l'abîme en perspective. Sur ce fond de feu, les flocons de neige devenaient noirs, et l'on eût dit des papillons sombres volant dans une fournaise. Puis tout s'éteignait. La première explosion passée, la bourrasque, chassant toujours l'ourque, se mit à rugir en basse continue. C'est la phase de grondement, redoutable diminution de fracas. Rien d'inquiétant comme ce monologue de la tempête. Ce récitatif morne ressemble à un temps d'arrêt que prendraient les mystérieuses forces combattantes et indique une sorte de guet dans l'inconnu. L'ourque continuait éperdument sa course. Ses deux voiles majeures, surtout, faisaient une fonction effrayante. Le ciel et la mer étaient d'encre, avec des jets de bave sautant plus haut que le mât. À chaque instant, des paquets d'eau traversaient le pont comme un déluge. Et à toutes les inflexions du roulis, les écubiers, tantôt de tribord, tantôt de bâbord, devenaient autant de bouches ouvertes revomissant l'écume à la mer. Les femmes s'étaient réfugiées dans la cabine, mais les hommes demeuraient sur le pont. La neige aveuglante tourbillonnait. Les crachats de la houle s'y ajoutaient. Tout était furieux. En ce moment, le chef de la bande, debout à l'arrière sur la barre d'arcasse, d'une main s'accrochant au hauban, de l'autre arrachant sa pagne de tête qu'il secouait aux lueurs de la cage de feu, arrogant, content, la face altière, les cheveux farouches, ivre de toute cette ombre, cria « Nous sommes libres !»« Libres, libres, libres !» répétèrent les évadés. Et toute la bande, saisissant des poings les agrès, se dressa sur le pont. « Hurrah !» cria le chef. Et la bande hurla dans la tempête « Hurrah !» À l'instant où cette clameur s'éteignait parmi les rafales, une voix, grave et haute, s'éleva à l'autre extrémité du navire et dit « Silence !» Toutes les têtes se tournèrent. Il venait de reconnaître la voix du docteur. L'obscurité était épaisse. Le docteur était adossé au mât avec lequel sa maigreur se confondait. On ne le voyait pas. La voix reprit « Écoutez !» Tous se turent. Alors, on entendit distinctement dans les ténèbres le tintement d'une cloche. Chapitre 9. Soins confiés à la mer furieuse. Le patron de la barque, qui tenait la barre, éclata de rire. Une cloche ! C'est bon, nous chassons à bâbord. Que prouve cette cloche ? Que nous avons la terre à dextribord. La voix ferme et lente du docteur répondit « Vous n'avez pas la terre à tribord. » « Mais si !» cria le patron. « Non. » « Mais cette cloche vient de la terre. » « Cette cloche, dit le docteur, vient de la mer. » Il y eut un frisson parmi ces hommes hardis. Les faces hagardes des deux femmes apparurent dans le carré du capot de cabine comme deux larves évoquées. Le docteur fit un pas, et sa longue forme noire se détacha du mât. On entendait la cloche tinter au fond de la nuit. Le docteur reprit. Il y a, au milieu de la mer, à moitié chemin entre Portland et l'archipel de la Manche, une bouée qui est là pour avertir. Cette bouée est amarrée avec des chaînes au bas fond et flotte à fleur d'eau. Sur cette bouée est fixé un tréteau de fer, et la traverse de ce tréteau est suspendue une cloche. Dans le gros temps, la mer, secouée, secoue la bouée et la cloche sonne. Cette cloche, vous l'entendez. Le docteur laissa passer un redoublement de la bise, attendit que le son de la cloche eût repris le dessus et poursuivit. Entendre cette cloche dans la tempête, quand le norouâ souffle, c'est être perdu. Pourquoi ? Voici. Si vous entendez le bruit de cette cloche, c'est que le vent vous la porte. Or, le vent vient de l'ouest et les brises en Dorigny sont à l'est. Vous ne pouvez entendre la cloche que parce que vous êtes entre la bouée et les brisants. C'est sur ces brisants que le vent vous pousse. Vous êtes du mauvais côté de la bouée. Si vous étiez du bon, vous seriez au large, en haute mer, en route sûre, et vous n'entendriez pas la cloche. Le vent n'emporterait pas le bruit vers vous. Vous passeriez près de la bouée sans savoir qu'elle est là. Nous avons dévié. Cette cloche, c'est le naufrage qui sonne le tocsin. Maintenant, avisez. La cloche, pendant que le docteur parlait, apaisée par une baisse de brise, sonnait lentement, un coup après l'autre, et ce tintement intermittent semblait prendre acte des paroles du vieillard. On eût dit le glas de l'abîme. Tous écoutaient, haletants, tantôt cette voix, tantôt cette cloche. Chapitre 10. La grande sauvage, c'est la tempête. Cependant, le patron avait saisi son porte-voix. « Cargate todo, hombres !» Débordez les écoutes. « Allez, les calebas, affalez les itacs et les cacs des basses voiles. Mordons à l'ouest. Reprenons de la mer. Le cap sur la bouée. Le cap sur la cloche. Il y a du large là-bas. Tout n'est pas désespéré. »« Essayez, » dit le docteur. Disons ici, en passant, que cette bouée à sonnerie, sorte de clocher de la mer, a été supprimée en 1802. De très vieux navigateurs se souviennent encore de l'avoir entendue. Elle avertissait, mais un peu tard. L'ordre du patron fut obéi. Le languedocien fit un troisième matelot. Tous aidèrent. On fit mieux que carguer, on ferla. On sangla tous les rabans, on noua les cargues-points, les cargues-fonds et les cargues-boulines. On mit des pataras sur les estropes qui purent ainsi servir de haubans de travers. On jumela le mât, on cloua les mantelets de sabord, ce qui est une façon de murer le navire. La manœuvre, quoique exécutée en pantaine, n'en fut pas moins correcte. L'ourque fut ramené à la simplification de détresse. Mais à mesure que le bâtiment, serrant tout, s'amoindrissait, le bouleversement de l'air et de l'eau croissait sur lui. La hauteur des houles atteignait presque la dimension polaire. L'ouragan, comme un bourreau pressé, se mit à écarteler le navire. Ce fut en un clin d'œil un arrachement effroyable, les huniers déralingués, le bordage rasé, les dogues d'amure déboîtés, les haubans saccagés, le mât brisé, tout le fracas du désastre volant en éclats. Les gros câbles cédèrent, bien qu'ils eussent quatre brasses d'étalingure. La tension magnétique, propre aux orages de neige, aidait à la rupture des cordages. Ils cassaient autant sous l'effluve que sous le vent. Diverses chaînes sorties de leurs poulies ne manœuvraient plus. À l'avant, les joues et à l'arrière, les hanches ployaient sous des pressions à outrance. Une lame emporta la boussole avec l'habitacle. Une autre lame emporta le canot, amarré en porte-manteau au beaupré, selon la bizarre coutume asturienne. Une autre lame emporta la vergue civalière. Une autre lame emporta la Notre-Dame de proue et la cage à feu. Il ne restait que le gouvernail. On suppléa au fanal manquant au moyen d'une grosse grenade brûlot pleine d'étoupes flambantes et de goudron allumé, qu'on suspendit à l'étrave. Le mât, cassé en deux, tout hérissé de haillons frissonnants, de cordes, de moufles et de vergues, encombrait le pont. En tombant, il avait brisé un pan de la muraille de tribord. Le patron, toujours à la barre, cria « Tant que nous pouvons gouverner, rien n'est perdu. Les œuvres vives tiennent bon. Des haches, des haches. Le mât à la mer, dégagez le pont. » Équipage et passagers avaient la fièvre des batailles suprêmes. Ce fut l'affaire de quelques coups de cognée. On poussa le mât par-dessus le bord. Le pont fut débarrassé. « Maintenant, reprit le patron, prenez une drisse et amarrez-moi à la barre. » On le lia au timon. Pendant qu'on l'attachait, il riait. Il cria à la mer. « Beugle, la vieille, beugle, j'en ai vu de pire au cap Machichaco. » Et quand il fut garrotté, on empoigna le timon à deux poings avec cette joie étrange que donne le danger. « Tout est bien, camarade. Vive Notre-Dame de Buglos, gouvernons à l'ouest. » Une lame de travers, colossale, vint et s'abattit sur l'arrière. Il y a toujours dans les tempêtes une sorte de vague tigre, flot féroce et définitif, qui arrive à point nommé, rampe quelque temps comme à plat ventre sur la mer, puis bondit, rugit, grince, fond sur le navire en détresse et le démembre. Un engloutissement d'écume couvrit toute la poupe de la matoutine. On entendit dans cette mêlée d'eau et de nuit une dislocation. Quand l'écume se dissipa, quand l'arrière reparut, il n'y avait plus ni patron, ni gouvernail. Tout avait été arraché. La barre et l'homme qu'on venait d'y lier s'en étaient allés avec la vague, dans le pêle-mêle hennissant de la tempête. Le chef de la bande regarda fixement l'ombre et cria « T'es burlas de nos ostros ? Te moques-tu de nous ?» À ce cri de révolte succéda un autre cri « Jetons l'ancre, sauvons le patron !» On courut au cabestan, on mouilla l'ancre, les ourques n'en avaient qu'une, ceci n'aboutit qu'à la perdre. Le fond était de roc vif, la houle forcenée. Le câble cassa comme un cheveu. L'ancre demeura au fond de la mer. Du taille-mer, il ne restait que l'ange, regardant dans sa lunette. À dater de ce moment, l'ourque ne fut plus qu'une épave. La Matutina était irrémédiablement désemparée. Ce navire, tout à l'heure ailé, et presque terrible dans sa course, était maintenant impotent. Pas une manœuvre qui ne fût tronquée et désarticulée. Il obéissait, ankylosé et passif, aux furies bizarres de la flottaison. Quand quelques minutes à la place d'un aigle il y ait un cul-de-jatte, cela ne se voit qu'à la mer. Le soufflement de l'espace était de plus en plus monstrueux. La tempête est un poumon épouvantable. Elle ajoute sans cesse de lugubres aggravations à ce qui n'a point de nuance, le noir. La cloche du milieu de la mer sonnait désespérément, comme secouée par une main farouche. La Matutina s'en allait au hasard des vagues, un bouchon de liège à de ses ondulations. Elle ne voguait plus, elle surnageait. Elle semblait à chaque instant prête à se retourner le ventre à fleur d'eau, comme un poisson mort. Ce qui la sauvait de cette perdition, c'était la bonne conservation de la coque, parfaitement étanche. Aucune vègre n'avait cédé sous la flottaison. Il n'y avait ni fissure, ni crevasse, et pas une goutte d'eau n'entrait dans la cale. Heureusement, car une avarie avait atteint la pompe et l'avait mise hors de service. L'ourque dansait hideusement dans l'angoisse des flots. Le pont avait les convulsions d'un diaphragme qui cherche à vomir. On eût dit qu'il faisait effort pour rejeter les naufragés. Eux, inertes, se cramponnaient aux manœuvres dormantes, aux bordages, aux traversins, aux cerbosses, aux garcettes, aux cassures du franc-bord, en bourre flottée dont les clous leur déchiraient les mains, aux porgues déjetées, à tous les reliefs misérables du délabrement. De temps en temps, ils prêtaient l'oreille, le bruit de la cloche allait s'affaiblissant. On eût dit qu'elle aussi agonisait. Son tintement n'était plus qu'un râle intermittent. Puis ce râle s'éteignit. Où était-il donc? Et à quelle distance était-il de la bouée? Le bruit de la cloche les avait effrayés. Son silence les terrifia. Le norrois leur faisait faire un chemin peut-être irréparable. Ils se sentaient emportés par une frénétique reprise d'haleine. L'épave courait dans le noir. Une vitesse aveuglée, rien n'est plus affreux. Ils sentaient du précipice devant eux, sous eux, sur eux. Ce n'était plus une course, c'était une chute. Brusquement, dans l'énorme tumulte du brouillard de neige, une rougeur apparut. « Un phare !» crièrent les naufragés. Chapitre 11. Les casquets. C'était en effet les lighthouses des casquets. Un phare, au XIXe siècle, est un haut cylindre conoïde de maçonnerie surmonté d'une machine à éclairage toute scientifique. Le phare des casquets, en particulier, est aujourd'hui une triple tour blanche portant trois châteaux de lumière. Ces trois maisons à feu évoluent et pivotent sur des rouages d'horlogerie avec une telle précision que l'homme de quart qui les observe du large fait invariablement 10 pas sur le pont du navire pendant l'irradiation et 25 pendant l'éclipse. Tout est calcul dans le plan focal et dans la rotation du tambour octogone, forme de 8 larges lentilles simples à échelon. Et ayant au-dessus et au-dessous, ces 2 séries d'anneaux dioptriques. Engrenage algébrique garanti des coups de vent et des coups de mer, par des vitres épaisses, parfois cassées pourtant par les aigles de mer qui se jettent dessus, grand phalène de ces lanternes géantes. La bâtisse qui enferme, soutient et sertit ce mécanisme est, comme lui, mathématique. Tout y est sobre, exact, nu, précis, correct. Un phare est un chiffre. Au XVIIe siècle, un phare était une sorte de panache de la terre au bord de la mer. L'architecture d'une tour de phare était magnifique et extravagante. On y prodiguait les balcons, les balustres, les tourelles, les logettes, les gloriettes, les girouettes. Ce n'était que mascarons, statues, rinceaux, volutes, ronds de bosse, figures et figurines, cartouches avec inscriptions. Pax in bello, disait le phare d'Eddingstone. Observons-le en passant. Cette déclaration de paix ne désarmait pas toujours l'océan. Winston Slay la répéta sur un phare qu'il construisit à ses frais dans un lieu farouche devant Plymouth. La tour du phare achevée, il se mit dedans et la fit essayer par la tempête. La tempête vint et emporta le phare et Winston Slay. Du reste, ces bâtisses excessives donnaient de toutes parts prise à la bourrasque, comme ces généraux trop chamarrés qui, dans la bataille, attirent les coups. Outre les fantaisies de pierre, il y avait les fantaisies de fer, de cuivre, de bois. Les serrureries faisaient relief, les charpentes faisaient saillie. Partout, sur le profil du phare, débordaient, scellés aux murs parmi les arabesques, des engins de toute espèce, utiles et inutiles, treuil, palan, poulie, contrepoids, échelle, grue de chargement, grappin de sauvetage. Sur le faîte, autour du foyer, de délicates serrureries ouvragées portaient de gros chandeliers de fer où l'on plantait des tronçons de câbles noyés de résine, mèches brûlantes opiniâtrement et qu'aucun vent n'éteignait. Et, du haut en bas, la tour était compliquée d'étendards de niais, de banderoles, de bannières, de drapeaux, de pennons, de pavillons, qui montaient de hampe en hampe, d'étage en étage, amalgamant toutes les couleurs, toutes les formes, tous les blasons, tous les signaux, toutes les turbulences, jusqu'à la cage à rayons du phare, et faisait dans la tempête une joyeuse émeute de guenilles autour de ce flamboiement. Cette effronterie de lumière au bord du gouffre ressemblait à un défi et mettait en verve d'audace les naufragés. Mais le phare décasqué n'était point de cette mode. C'était à cette époque un simple vieux phare barbare, tel que Henri Ier l'avait fait construire après la perdition de la Blanche Nef, un bûcher flambant sous un treillis de fer au haut d'un rocher, une braise derrière une grille et une chevelure de flamme dans le vent. Le seul perfectionnement qu'avait eu ce phare depuis le XIIe siècle, c'était un soufflet de forge mis en mouvement par une crémaillère à poids de pierre qu'on avait ajusté à la cage à feu en 1610. À ces antiques phares-là, l'aventure des oiseaux de mer était plus tragique qu'aux phares actuels. Les oiseaux y accouraient, attirés par la clarté, s'y précipitaient et tombaient dans le brasier où on les voyait sauter, espèce d'esprit noir agonisant dans cet enfer. Et parfois, ils retombaient hors de la cage rouge sur le rocher, fumant, boiteux, aveugle, comme hors d'une flamme de lampe des mouches à demi brûlées. À un navire en manœuvre, pourvu de toutes ses ressources de gréement et maniable au pilote, le phare décasqué est utile. Il crie « Gare !» Il avertit de l'écueil. Un navire désemparé, il n'est que terrible. La coque, paralysée et inerte, sans résistance contre le plissement insensé de l'eau, sans défense contre la pression du vent, poisson sans nageoire, oiseau sans ailes, ne peut qu'aller où le souffle la pousse. Le phare lui montre l'endroit suprême, signale le lieu de disparition, fait le jour sur l'ensevelissement. Il est la chandelle du sépulcre. Éclairer l'ouverture inexorable, avertir de l'inévitable. Pas de plus tragique ironie.